C'est le magazine des chaînes et du football en direct ce soir sur Radio Bonheur, comme tous les lundis soirs, 19h et 2-3 minutes. Le foot continue malgré le virus. Les clubs pro continuent de jouer. Ça nous change de la dernière épidémie. Le foot continue et donc, évidemment, nous continuons de retransmettre tous les matchs de Guingamp, Lorient et Brest. Et nous continuons tous les jours à 8h40 et 17h40. La rubrique quotidienne et le magazine, donc tous les lundis soirs de 19h à 20h30, 1h30 de foot en direct sur Radio Bonheur avec nous, nos footeux habituels, Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonjour à toutes et à tous.
Avec Sébastien en studio avec nous, bonsoir.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
Gaëtan Pinel est avec nous aussi, bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
Alors faut juste revenir sur l'expression footeux, pas de très haut niveau non plus.
Hein. Oh, D4, c'est bien.
Mais aussi, on est à l'arrêt en termes de sport.
Ouais, plus de championnat amateur. Non. Il n'y a que les pros.
Décembre, hein.
Il n'y a que les pros qui continuent à jouer. Et
pour l'instant.
Ouais, pour l'instant. Et en tout cas, si avec des matchs à huis clos, je pense que ça devrait continuer. Sauf si on a des joueurs de foot qui eux-mêmes contractent le virus. Là, ce sera effectivement plus difficile. Mais pour l'instant, ça le fait. Les matchs continuent, à part Lens, je crois. En équipe pro, ouais. On n'a pas trop de soucis de ce côté-là pour l'instant. Ce week-end moyen, hein, on n'a pas eu de motif de réjouissance plus que ça. Le week-end dernier encore moins, puisque les trois clubs bretons que nous suivons avaient tous perdu. De ce week-end, une défaite, 2 nuls. Et puis un nul de Guingamp pas très rassurant, un nul de Lorient un peu mieux.
C'est moins pire, on va dire.
C'est moins pire, le nul de Lorient. Et puis, Brest déconfie une nouvelle fois, cette fois-ci à Brest, à Rennes. C'est vraiment dommage pour Brest parce que Brest avait ouvert la marque.
Ouais, mais attention, Rennes, quand on voit l'effectif actuel pour la Ligue 1, c'est fort. C'est très, très fort.
C'est une grosse équipe de Rennes. Mais bon, Rennes n'était pas en forme depuis quelques semaines, depuis notamment la Coupe d'Europe. Ils ont du mal à enchaîner. C'est vrai que des matchs tous les 3-4 jours, c'est pas évident pour les sportifs de plus haut niveau. Et certains clubs de Ligue 1 en avaient profité jusqu'à maintenant. Ça n'a pas été le cas de Brest ce week-end, Gaëtan. Vous étiez à Rennes pour ce oui. match en direct entre Rennes et Brest.
Ouais, pour ce derby remporté donc par le Stade Rennais 2-1, alors que vous allez l'entendre dans un instant dans le résumé, mais Brest aurait pu mériter mieux, aurait pu espérer en tout cas mieux dans ce match, parce que Brest a marqué notamment en premier. On écoute tout de suite le résumé de ce derby breton en musique. C'était samedi en fin d'après-midi au Roizen Park à Rennes.
Attention, ce ballon d'El Castillo, centre en retrait sur la barre, la frappe de Martin Terrier qui vient taper la barre, la première occasion du Stade Rennais dans ce match, la première occasion pour Martin Terrier. Oh, attention, ce décalage d'El Castillo dans la surface de réparation sur son pied gauche, faut pas le laisser frapper, le petit filet extérieur heureusement trouvé par Romain d'El Castillo, et l'ont laissé frapper là, les Brestois pris de vitesse. Le centre de Fossurier vers la tête de Mounier, ce ballon qui n'est pas repris, Honorat qui va frapper, qui marque, Honorat qui marque sur la première frappe des Brestois dans ce match à la 57e minute. Et bien le Stade Brestois qui crée la sensation dans le derby ici à Rennes et qui ouvre le score par l'intermédiaire d'un Franck Honorat revanchard de son début de saison, et Brest mène 1-0 dans le derby à Rennes.
Ah, oh, quel beau but.
Castillo pour frapper, deuxième poteau, la tête et l'égalisation. L'égalisation de Damien Da Silva, ce n'est pas un pénalty, c'est un coup franc, mais c'est quand même but à l'arrivée pour le Stade Rennais qui égalise dans ce derby face à Brest. La défense brestoise aura craqué aujourd'hui sur coup de pied arrêté. Un but partout et donc tout est à refaire dans ce match. 19e but encaissé par le Stade Brestois et tous les compteurs sont désormais à égalité. Un partout entre Rennes et Brest. Ils sont encore nombreux, les Rennais à être montés, 6 encore dans la surface, la tête et deuxième but. Ah, le deuxième but, et c'est encore ce coup de pied arrêté que le Stade Brestois flanche. Cette fois c'est Naïef Aguerre de l'autre défenseur central qui marque le deuxième but Rennais. Et bien en 3 minutes Les Rennais ont renversé les Brestois et marquent donc par Naïef Aguerre de 2-1. Mounier maintenant qui peut s'entrer vers le grand. Oh, la parade énorme! La parade énorme de Gomis, frappe encore de Laurent ensuite et qui est détournée en corner par Gomis. La deuxième frappe brestoise a failli elle aussi terminer au fond, mais super barré de Gomis. Ballon de Chardonnay aux avant-postes vers la déviation de la tête de Charbonnier. Est-ce que Perrault va pouvoir gratter ce ballon? Oui, à la surface, frappe de Perrault dessus. Côté droit, Traoré, ils sont 4 contre 4, les Rennais, le centre vers Guirassy. Et encore l'arrêt sur son premier poteau de Gauthier Larsonneur. Frappé au deuxième poteau, la tête, la barre, dévié sur la barre, cette tête de Guirassy. C'est même terminé, Brest s'incline pour la sixième fois de la saison et il peut y avoir des regrets parce que Brest menait 1-0 dans ce match, mais les Brestois s'inclinent 2-1 dans le derby ici à Rennes.
Oui, et ça en restera là. Défaite des Brestois, de buts à 1.
Le Stade Brestois défait donc chez le Stade Rennais. On a dit c'est une équipe en forme, hein. Rennes qui l'était un petit peu moins sur les derniers matchs de championnat, mais cette équipe, Pierre, s'est refait la cerise dans le derby face au Stade Brestois après une entame aussi européenne qui avait été compliquée. Vous avez vu leur match en tout cas, Pierre, la semaine passée contre Séville, je crois.
Oui, où Rennes avait éprouvé les pires difficultés à exister, hein, face à un adversaire rodé aux joutes de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Coupe d'Europe tout simplement. Voilà, on avait vu le gap qui séparait un petit peu Rennes des toutes meilleures équipes en Europe, mais qui mieux pour parler du Stade Rennais que notre spécialiste du Stade Rennais. Ça fait plaisir de le retrouver sur les ondes de Radio Bonheur parce que nos équipes n'avaient pas joué Rennes l'année dernière. Bonjour Fabrice Pinel.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors, pas de lien de parenté entre Fabrice Pinel et notre Gaëtan Pinel national.
Vous êtes sûr?
On croit. Et
jusqu'à preuve du contraire.
C'est un nom à succès quand même.
C'est vrai.
Exactement. Oui, juste un petit mot. Alors après, c'est Gaëtan qui reprendra la main, Fabrice, pour revenir avec vous sur ce match. Et puis on parlera du Stade Rennais un petit peu après. Comment vous jugez la victoire de Rennes? Est-ce que c'est une victoire heureuse? On l'a vu en fin de match. On l'a entendu aussi. Il y a eu des occasions brestoises. Comment on accueille cette victoire du côté des Rouges et Noirs?
Bon, il y a plusieurs lectures de ce match-là. C'est un match dominé en première mi-temps, dominé territorialement et quelques occasions. Au moment où arrive le but de Brest, c'est un peu le hold-up, hein, d'une certaine manière. Après, c'est pas la plus belle des manières que le club a réussi à repasser devant, deux coups de pied arrêtés, deux buts, mais sur l'ensemble, ça récompense la prestation globale. Avec plus de réalisme offensif, cette rencontre-là aurait dû être pliée plus tôt.
Oui, des Brestois qui ont craqué donc face à Rennes sur coup de pied arrêté. Deux buts inscrits par Damien Da Silva et Naïef Aguerd, les deux défenseurs centraux du Stade Rennais, juste après que Franck Honora ait ouvert le score pour Brest à la 57e. Comme disait Fabrice, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu au hold-up, hein, parce que c'était la première frappe des Brestois dans le match. Et derrière, donc en 4 minutes, Rennes a renversé cette vapeur. Deux buts inscrits donc sur coup de pied arrêté, on l'a dit, ça a provoqué la frustration de l'entraîneur brestois Olivier Dalloglio, qu'on écoute tout de suite, l'entraîneur du Stade brestois.
Ouais, parce qu'on avait ce souci après Marseille, on avait beaucoup travaillé dessus et puis ça s'est passé beaucoup mieux. En fait, on s'aperçoit qu'il faut toujours faut être vigilant, quoi. Non, on est déçu de prendre des buts comme ça parce que voilà, c'est évitable, on le sait. On a pris, le dernier qu'on a pris, c'était Angers, qui nous a fait basculer du mauvais côté aussi. Voilà. On le sait, il va falloir peut-être changer les choses, mais enfin, on ne peut pas changer les joueurs non plus. On ne peut pas les faire grandir, on ne peut pas les faire devenir beaucoup plus forts dans le jump. Mais ce qu'on peut faire, c'est leur donner encore plus de détermination pour ne pas prendre ce genre de but, quoi.
Ouais, pourtant Gaëtan, ça avait été assez costaud en première période du côté de Brest, on avait été un peu rassuré.
Ouais, la défense qui avait concédé moins d'occasions, il y avait eu la frappe de Martin Terrier sur la barre, mais il y avait eu moins d'occasions concédées quand même que sur les précédents matchs. Il y avait une domination territoriale, mais
ce qui est vraiment récurrent avec Brest, c'est que non seulement ils sont assez perméables, mais en plus il faut très peu d'occasions à l'adversaire à chaque fois pour marquer. C'est-à-dire que les occasions concédées à l'adversaire à chaque fois, ce sont des occasions décisives. Ouais, parce c'est ça le drame, je
Brest
pense.
Brest ne fait pas forcément partie des équipes qui concèdent le plus d'occasions par match, mais c'est la pire défense avec 20 buts encaissés. 6 déjà sur coup de pied arrêté, c'est déjà autant que la saison passée pour le Stade Brestois. D'ailleurs, Fabrice, les coups de pied arrêtés, c'est aussi une force, à contrario du Stade Rennais cette saison.
Oui, de ce côté-là, le club a vraiment progressé parce que l'an passé, on pêchait un peu dans ce domaine-là de pouvoir faire la décision sur des matchs un peu plus fermés, faire la décision sur ces phases-là. Et puis cette saison, Da Silva est à 3 buts, Aguerd est à 3 buts aussi. Donc ils sont deux des 3 meilleurs buteurs du club cette année et c'est des défenseurs centraux.
Oui, les défenseurs sont au rendez-vous devant le but cette saison côté Rennais. On va écouter un autre défenseur, mais cette fois c'est côté Brestois, Brendan Chardonnay, qui lui revient justement sur ces phases arrêtées, ces coups de pied arrêtés qui font mal au Stade Brestois, qui ont fait mal en début de saison. C'était mieux ces derniers temps et puis là ça a replongé à ce niveau-là du côté de Brest. On écoute Brendan Chardonnay.
Ouais, c'est compliqué. On sait que sur les coups de pied arrêtés en début de saison, on avait un peu de mal. On a réussi à rectifier le tir. Là, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on peut ramener, un point, hein. On peut ramener un point, voire 3 aujourd'hui. Au final, on en ramène 0 à cause de 2 buts sur coups de pied arrêtés. Donc, c'est vraiment chiant.
Ouais, c'est 3 points, ça aurait été cher payé, c'est vrai, pour Brest. 1 point. Ça l'aurait peut-être été un peu aussi, mais en tout cas, ça aurait permis de récompenser les efforts qu'ont fait les Brestois dans le domaine défensif, là où ça pêche très clairement depuis le début de la saison, avec, on a dit, beaucoup de buts encaissés déjà. Alors, comment progresser aussi maintenant sur ces phases arrêtées, notamment? Voici ce qu'en pense l'entraîneur du Stade Brestois, Olivier Dalloglio.
C'est parce que quand on est dans cette situation de coup franc, de corner, etc., je trouve qu'on a beaucoup de naïveté parce qu'on se fait un petit peu accrocher au départ à des petits trucs comme ça. Même si on le montre, on va encore le remontrer. Il faut peut-être encore un peu plus de vis là-dessus pour arriver à s'en sortir. Ouais, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut bosser. Non, parce qu'on était, bien placés, on était disciplinés. Voilà, je regrette, bien sûr, ces moments-là, ces moments de faiblesse un petit peu qui permettent à l'adversaire de repartir de l'avant, quoi.
Oui, parce je pense qu'aussi Gaëtan, inconsciemment, ça doit jouer, hein. Vous prenez un paquet de buts sur coup de pied arrêté, je pense que à un moment donné, ça doit venir dans leur esprit, se dire « Ah là là, attention, c'est encore un corner, faut pas faire d'erreur. » C'est le genre de cercle, vous savez, parfois aussi, je pense que Fabrice va peut-être pouvoir nous en parler aussi, Rennes qui marque beaucoup dans les fins de match. Quand vous marquez beaucoup dans les fins de match, vous savez que plus le temps avance, plus vous êtes capable de le faire. Et à contrario, plus vous prenez des buts dans le temps à la fin, et plus vous dites attention quand même. Je pense que ça aussi, ça doit jouer du côté de Brest.
Oui, sans doute, parce que
c'est le mental, hein, comme pour chaque équipe, ça, ouais. C'est un rôle déterminant.
Exactement. D'autant plus que là, c'est deux situations sur coup de pied arrêté, coup sur coup, en 4 minutes les deux. Et justement, j'ai posé la question à Brendan Chardonnay. On a mis ce son-là dans la rubrique de ce matin du côté de Brest. Brendan Chardonnay, je lui demande, mais quand même, quand il y a ce premier but sur coup de pied arrêté, est-ce que ça réveille pas un petit peu les troupes en se disant méfiance, on connaît ce genre de situation, on sait que ça peut arriver encore? Et il me dit ça aurait dû, mais il n'y arrive pas les Brestois sur ce genre de situation. Fabrice, vous qui supportez donc le Stade Rennais, est-ce que vous étiez peut-être un petit peu inquiet dans le jeu, que ça ne prenne pas aussi sur du côté de Rennes sur ce match contre Brest?
Cette inquiétude venait plus du fait que ça faisait plusieurs résultats négatifs. Donc on se demandait si on allait réussir à inverser la tendance, mais dans l'absolu, on sait qu'on a une équipe orgueilleuse et à réaction, et que on a renversé beaucoup, beaucoup de situations comme ça depuis 2 ans. Et ça a encore été le cas, sauf que le doute, c'était plutôt la spirale négative de résultats sans victoire depuis 4-5 matchs. Ouais. Donc c'était plutôt ça le doute, vaincre un peu le mauvais signe du moment.
Ouais, et puis Brest qui à l'heure de jeu semblait peut-être bien parti pour poursuivre la mauvaise série du Stade Rennais. Le plan de jeu fonctionnait alors à merveille pour Olivier Dalloglio et ses hommes. Dans le jeu, il a fonctionné, c'est sur phase arrêtée que ça n'a pas marché, mais dans le jeu, le plan mis en place par l'entraîneur brestois a plutôt été satisfaisant aux yeux du coach. Écoutez-le.
En même temps, on a été discipliné. Voilà, on a été comme on avait prévu, de faire notre plan de jeu, c'est plutôt bien déroulé. savait qu'on n'aurait pas le ballon, donc on a beaucoup couru, c'était discipliné, il y avait de l'envie, donc ça c'était pas mal. Après, il nous a manqué un petit peu la conservation, peut-être le côté technique un peu qui nous a fait défaut sur 2-3 ballons perdus un peu bêtement. Mais on va se servir de ça pour continuer. Voilà, c'est une base pour nous, c'est une base de travail. Voilà, après, on sait qu'on est tombé sur une grosse équipe. On a une grosse équipe dimanche prochain aussi.
Oui, j'ai une question pour Fabrice Gaëtan. Vous parliez de l'heure de jeu et pour vous suivre un peu, d'ailleurs, on invite tous nos auditeurs, hein, si vous ne le faites pas encore, à suivre le site Rouge Mémoire sur Facebook, sur Twitter, partout où vous pouvez. Ces statistiques sur les buts encaissés par Rennes à l'heure de jeu. Vous aviez dit avant dans la semaine, attention, Rennes prend tout le temps ses buts maintenant entre, je crois, la 55e et la 62e, je ne sais plus. Comment vous expliquez ça? 54 et 59.
C'est depuis que Julien Stéphan est l'entraîneur du club, c'est toujours été la demi-heure qui va de la 30e à la 60e, c'est celle dans laquelle on marque le moins de buts et où on en prend le plus. Et là, depuis un mois, les 5 derniers matchs, Brest inclus, on prend à chaque fois un but entre la 54e et la 59e. Donc c'est un axe de progression évident pour l'équipe à ce moment-là du match.
Ça aussi, c'est quelque chose d'inexplicable.
Inexplicable, oui, complètement. Voilà, l'équipe aime réagir, donc peut-être qu'elle se met en difficulté pour avoir la possibilité de le faire, je ne sais pas.
Ça peut être une des explications, effectivement. En tout cas, ça marche, hein, côté rennais jusqu'à présent. Côté brestois, on y a cru un petit peu. On y a cru aussi du côté des joueurs qui ont été relancés parce qu'il y en avait certains. Irvine Cardona en faisait partie. Franck Honora aussi. Deux joueurs qui n'avaient plus été titulaires depuis la deuxième journée contre Marseille. Et Franck Honora, lui, a marqué notamment puisque c'est lui le buteur sur ce match. Deux joueurs qui ont été un petit peu piqués ces dernières semaines par Olivier Dalloglio, il avait dit d'ailleurs après la victoire contre Monaco que ce sont deux joueurs qui avaient un petit peu raté leur début de saison. Est-ce qu'il est satisfait, l'entraîneur brestois, de la relance de ces deux joueurs? On va écouter Olivier Dalloglio.
Oui, je voulais relancer des joueurs, effectivement, pour voir un petit peu comment ils réagissaient, s'ils avaient été piqués, le fait de ne pas jouer, etc. Donc, parce qu'il y a une grosse concurrence, notamment la concurrence, elle est devant, elle n'est pas ailleurs. Relancer des garçons, ouais, il y a des garçons qui m'ont bien plu parce qu'ils ont été disciplinés, ils avaient envie, ils avaient une vraie détermination. Donc on aura besoin de tout le monde, hein. Je rappelle qu'on s'accroche pour rester en Ligue 1 et qu'on aura vraiment besoin de tout le monde. Là, voilà, ça me permet de voir que j'ai un effectif qui est là, qui est présent.
Ouais. Et Lille, le prochain match à domicile, oui, c'est pas facile non plus, hein, ce qui va se passer là, le week-end prochain pour Brest.
Oui, le LOSC qui se présentera au stade Francis Leblé. D'ailleurs, un horaire encore un peu particulier sera à 13h dimanche.
Super.
L'après-midi, on se lèvera tôt dimanche pour aller au stade Francis Leblé. Un match face à une nouvelle équipe de haut tableau. Il y aura Saint-Etienne ensuite qui se présentera.
Bientôt à 10h, on va mettre les matchs de foot à 10h.
comme les vétérans dans certains clubs. Il y aura Saint-Etienne également dans la foulée qui est moins bien, hein, quand même. Saint-Etienne qui reste sur 4 défaites consécutives. Mais voilà, avec côté brestois, il y avait un calendrier qui allait un petit peu s'étoffer, puisqu'il y a eu Monaco il y a deux matchs, il y a eu Rennes là, il y a Lille la semaine prochaine. Une petite page de pub, Dominique, et puis on revient sur cette défaite des Brestois dans le derby, juste après la page de réclame.
Justy, resté un peu timide. Justy, t'ai dit à zéro frais de livraison, c'est frais. Tu m'as dit si y a pas de frais, Justy, je voudrais d'exquis sushi. Justy, et on s'est fait un Justy, ouais.
On s'est fait un Justy.
Chaud pour un Justy, c'est zéro frais de livraison dans plus de 8000 restaurants. Qu'est-ce qu'on attend? Téléchargez l'appli. Did somebody say Justy? Pour votre santé, évitez de grignoter.
Les autres vont attendre pour imaginer leur nouvelle cuisine. Mais vous n'êtes pas les autres, et Cuisine Plus non plus. Découvrez la conception à distance personnalisée par Cuisine Plus. Prenez rendez-vous sur cuisineplus.fr pour partager avec nous vos envies de cuisine. Cuisine Plus, sortez des standards.
Être là pour ses assurés, c'est important pour Generali. On en parle dans un instant en écoutant les témoignages de nos invités.
On en parle. Allopneu.com.
Pneu hiver ou pneu été ? Pneu été ou pneu hiver ? Pas toujours facile de choisir ses pneus. Avec les pneus toute saison Michelin Cross Climate, réglez le problème une bonne fois pour toutes. Roulez toute l'année, en toute sécurité, jusqu'au dernier kilomètre.
En ce moment, sur allopneu.com, le montage à domicile est remboursé pour l'achat de 4 pneus Michelin Cross Climate. Offre valable jusqu'au 17 novembre 2020, voire conditions sur allopneu.com.
Allopneu.com.
Choisissez, c'est monté.
Dans l'hiver, on est mieux dans la voiture. Au fait, t'as changé les pneus ?
Non, pas encore.
Oh, tu devrais. Des bons pneus, c'est toujours plus sûr. Ça adhère mieux, je t'assure.
Bah oui, je sais.
Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en ce moment, ce sont les bestes affaires chez Best Drive. Et il y a moins 20% sur le deuxième pneu hiver ou toute saison sur les marques Continental ou Best Drive.
Moins 20% ? Allez, on file chez Best Drive.
Et oui, jusqu'au 30 novembre, dans votre centre auto Best Drive, moins 20% sur le deuxième pneu hiver ou toute saison sur les marques Continental ou Best Drive. Modalité sur bestdrive.fr. Best signifie meilleur.
Douleurs articulaires ou musculaires, mal de dos, mal de genoux, le roller Pur Essentiel Articulation et Muscles réduit immédiatement et durablement la douleur grâce à sa bille massante et ses 14 huiles essentielles 100% naturelles. Roller Pur Essentiel, numéro 1 en pharmacie, dispositif médical. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur. En ce moment, pour deux boîtes de patchs chauffants articulation et muscles achetés, une boîte offerte. Dans la limite des stocks disponibles et pharmacies participantes.
Ford. On va le faire en condition. Allez !
Transporter des charges lourdes, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pourquoi Ford propose le nouveau Transit 2 tonnes hybride diesel à partir de 199 euros par mois. C'était bien là, Teddy ?
Parfait. Tu peux me poser ?
En novembre, profitez d'offres incroyables sur les utilitaires Ford hybride. C'est Teddy qui l'a dit.
Ford.
Montant hors taxe, crédit bail 60 mois, 50 000 km pour un Transit Trend Business en 30 chevaux MHEV avec un premier loyer de 3 900 euros. Hors carte grise, option d'achat 7 829 euros. Si acceptation par FCE Bank, réservée aux professionnels sous conditions de reprise, voire Ford.fr.
C'est le magazine des déchaînés du football en direct, 19h et 24 minutes, Gaëtan.
Oui, et on continue avec ce derby entre le Stade Rennais et le Stade Brestois. Victoire, on le rappelle, de Rennes, 2 buts à 1, but de Da Silva et d'Aguerre, contre un but d'Honora pour les Brestois qui avaient pourtant ouvert...
Il y avait 0-0 à la pause.
Le score, il y avait 0-0 à la mi-temps. La domination était territorialement de la part des Rennais. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu les statistiques et ce qu'il s'est passé, alors oui, Brest aurait pu arracher un nul à la fin, mais il y a quand même eu 2 barres pour... le Stade Rennais, il y a eu 2 buts. On sent que cette équipe de Brest, Pierre, vous qui l'avez vu aussi plusieurs fois cette saison, elle est vraiment trop friable. C'est encore le cas, même quand les joueurs changent, cette équipe est vraiment trop friable.
C'est peut-être aussi le revers de la médaille d'une équipe joueuse, en tout cas qui affirme ses intentions, qui nous a séduit par moments cette saison. Et voilà, c'est vrai que les coachs emploient souvent le terme d'équilibre pour moins se mettre en difficulté. Et là, c'est vrai que ce soit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a l'impression qu'il ne faut pas grand-chose aux équipes adverses pour marquer, même si la Rennes a eu beaucoup d'occasions. Les coups de pied arrêtés, c'est un problème récurrent. Je me souviens, dès le début de saison, contre Marseille, lors de la deuxième journée,
il y avait déjà eu... avait dit Olivier Dalloglio.
C'est vrai, on s'en souvient. Donc oui, c'est un problème pour Brest. À voir maintenant la suite, comment ça va se décanter avec ce calendrier très délicat, notamment avec la réception de Lille, qui est pour moi, je pense, actuellement la meilleure équipe de France. Pour moi, le PSG a les meilleures individualités, donc on verra ce que ça donne à Francis Leblé. Et l'une des meilleures équipes de France, on va en parler un petit peu encore quelques minutes, c'est le Stade Rennais, évidemment, avec Fabrice Pinel, l'un des créateurs du site rougemémoire.com. Rennes qui est en pleine essoreuse. Là, en ce moment, Fabrice, vous avez des matchs tous les 3 jours. Et quel match avec cette Ligue des Champions ? Comment vous, personnellement, en tant que supporter, vous accueillez ? Alors déjà, ce calendrier inédit, cette saison inédite avec ces premiers matchs de Ligue des Champions et ce contexte inédit qui prive les supporters de stade et de Ligue des Champions.
D'un point de vue supporter, déjà, le hic de tout ça, oui, c'est de ne pas pouvoir être dans les stades pour vivre ces matchs-là. Mais passer cela, faut profiter pleinement parce que en tant que supporter rennais, on a toujours rêvé de vivre des semaines comme celle qui est à venir là. Chelsea mercredi, le PSG en tant que troisième du championnat a défilé dimanche, samedi. Donc voilà, c'est des semaines dont on rêvait. Maintenant, Stade Rennais a goûté la Ligue des Champions, a souffert à Séville, voilà, a découvert qu'il y avait à faire pour bien figurer dans cette compétition-là. Donc maintenant, on y est, c'est le troisième match. Faut essayer d'aller poser plus de problèmes à Chelsea qu'on en avait posé à Séville maintenant. Et derrière, bah, y a un match bonus en championnat, comme toutes les équipes face à Paris, où lorsqu'on prend des points, bah, c'est tout bonus vis-à-vis des autres concurrents.
Comment vous avez senti que le regard sur le Stade Rennais a changé? À partir de quand vous avez remarqué ça et comment ça se traduit pour vous?
Bah, c'est en courant d'année 2019, hein, déjà le parcours du Stade Rennais en Europa League 2019, suivi de la victoire en Coupe de France, c'est là que le club change de dimension aux yeux de la France entière, on va dire, et change aussi de dimension vis-à-vis des supporters, parce que si on regarde un peu sur les réseaux, maintenant il y a un niveau d'exigence très très élevé vis-à-vis du Stade Rennais de la part de ses propres supporters, mais voilà, faut juste savoir garder raison. Rennes est une équipe programmée pour être entre 4 et 7 en Ligue 1 tous les ans. Quand on fait troisième, c'est un exploit, et quand on figure bien sur les Coupes d'Europe, c'est des exploits aussi. Voilà, maintenant l'objectif, c'est de se qualifier tous les ans pour les compétitions européennes et puis d'y briller autant que possible. Voilà.
Merci beaucoup Fabrice Pinel d'avoir été avec nous. On se retrouvera dans les prochains magazines lorsqu'il y aura déjà le match retour. Et puis Lorient-Rennes, il n'y a pas encore eu Lorient-Rennes,
non,
il me semble.
Non, pas encore.
Ah,
pas
ça
encore.
Va venir.
Ça va venir. J'ai regardé d'ailleurs la date ce week-end, mais j'ai oublié à nouveau. Je crois que c'est au mois de décembre. Hein.
Oui, forcément avant la fin de l'année.
Ouais, c'est un tout petit peu avant la trêve, il me semble. Je regarde ça exactement. Oui, c'est ça. C'est le 20 décembre. Un match avant la trêve hivernale. Donc, ce ne sera que la 16e journée parce que la phase aller se terminera au mois de janvier cette année. Mais ce sera l'avant-dernier match de l'année 2020. Ce match entre Rennes et Lorient.
On ne fait rien comme les autres années cette année.
Ah oui,
ça continue. C'est terrible ça. Mais ça va pas dans le bon sens.
Oui. À bientôt, Fabrice. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Au revoir.
Bonsoir, Fabrice. Merci encore. Bonne soirée. 19h29, que dis-je ? Ouais, presque 19h30. Voilà, la première demi-heure a été consacrée à Brest. On continue avec la Ligue 1, mais cette fois-ci, puisqu'on a parlé de Brest et un peu de la secousse du Stade Rennais, on va parler de Lorient. Oui. Match nul pour Lorient, 0-0. Voilà, c'était le minimum. C'est ce qu'on attendait au moins des Merlus face à la Lanterne Rouge, qui, on le rappelle, n'a toujours pas gagné dans ce championnat de Ligue 1. Donc, une défaite aurait vraiment été une très grosse désillusion pour Lorient. Le match nul, c'est un moindre mal.
C'est un moindre mal. On peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Ça dépend comment on se positionne. C'est vrai que d'un côté, on se dit que Lorient avait mieux à faire. Pourquoi ? Parce que c'est à Dijon qui est dernier et qui n'a toujours pas gagné. Qu'en plus, Lorient a eu un pénalty juste avant l'heure de jeu.
Oui.
Pénalty raté, hein, tiré sur le poteau par Johan Wissa. Mais d'un autre côté, c'est un point à l'extérieur. C'est le premier match de la saison sans prendre de but. C'est aussi un match qui aurait pu être perdu par les Lorientais en toute fin de rencontre. Et justement, pour s'en rendre compte, on va écouter le résumé de ce Dijon-Lorient. C'était hier après-midi en direct sur Radio Bonheur. Terem Mofi avec Boigard à l'entrée de la surface vers Gurbic. Gurbic, frappe pied gauche de Gurbic. Elle a été contrée cette frappe et ce sera un premier corner. Corner pour le FC Lorient qui va être frappé par Quentin Boigard. C'est parti, point de pénalty, la tête qui va passer à côté finalement ce ballon. Pénalty indiqué par l'arbitre pour Lorient. Pénalty pour Lorient, la sortie hasardeuse d'Alakbé qui d'ailleurs écope d'un carton jaune sur cette. Lui qui est allé au devant là d'Armand Lorienté. Johan Wissa, le meilleur buteur de la saison passée, l'actuel aussi meilleur buteur cette saison de Lorient, qui va s'élancer face à Alakbé. Poteau ! Le poteau qui renvoie le ballon de Johan Wissa et on en reste à 0-0. Diop dans le cœur du jeu pour Dijon. Diop avec Baldé. Do au but qui va frapper et ça passe à côté. C'est contré par la défense. Corner qui va être frappé encore par Chouillard, bien sûr, de la droite vers la gauche cette fois. C'est parti, premier poteau, la tête, oh ça vient presque flirter avec le poteau de Nardi. Pour
Wissa dans la surface, Wissa face à Lagbé, la frappe contrée, ah, par Panzo, c'était l'occasion, c'était la balle de match pour Johan Wissa, ce ballon et le retour de Panzo juste au moment où Wissa a frappé, il aurait pu frapper plus tôt, là, l'ancien attaquant de Châteauroux. Et Mama Baldé qui va frapper juste à côté. Oh la grosse frayeur. Oh la grosse frayeur. Et là aussi la balle de match pour Mama Baldé et les Dijonais. Ça s'achève d'ailleurs sur cette frappe de Dijon 0-0. Mais on a failli frôler la correctionnelle du côté de Lorient. Finalement, ce sera un point de ce déplacement chez la Lanterne Rouge.
Ouais, quand on voit la dernière action, on se dit que Lorient s'en sort bien malgré ce pénalty manqué.
Ah oui, parce que Dijon finalement aurait pu rafler la mise en toute fin de rencontre avec cette frappe de Baldé, Pierre.
Et oui, en plus, quand on revoit la frappe vue de derrière, on se dit vraiment que Lorient a eu de la réussite parce que, alors moi, vitesse réelle, alors c'est peut-être parce qu'il y avait du décalage entre la radio et la télé, mais j'ai pas trouvé cette frappe ultra dangereuse. Mais quand on la regarde de derrière, c'est vrai qu'on voit cette trajectoire oblique avec une parabole, une trajectoire extérieure.
Et heureusement qu'elle part vers l'extérieur.
Mais elle part trop vers l'extérieur parce que franchement, c'est une frappe magnifique de Mama Baldé. Froide.
On a bien cru jusqu'au dernier moment, quand on revoit le ralenti avec la caméra derrière, que le ballon allait rentrer. Hein.
Ah, exactement.
Et puis, il part, il est un petit peu trop travaillé. Et du coup, il part juste sur la droite et il effleure le poteau, mais sinon, elle rentrait.
Heureusement,
vous avez mis des aimants. Vous avez mis des aimants hier.
C'était presque chanceux, là, pour les Merlus.
Ouais. Paul Nardi qui a donc pour la première fois de la saison préservé son but, puisque Lorient jusque-là avait toujours au moins concédé un but par match. C'est la première fois que ce n'est pas le cas cette saison, et donc une défense aussi qui confirme du côté de Lorient, notamment depuis qu'Andrew Gravillon y est installé aux côtés de Julien Laporte. Ça fait trois matchs que défensivement, eh bien, il y a des progrès affichés par cette équipe de Lorient, une défense qui confirme et qui fait plaisir à son entraîneur Christophe Pélissier.
Oui, il y a des satisfactions dans le match, bien sûr que Stepper est ce quatuor aujourd'hui, parce qu'il y avait aussi Joe qui est rentré dans les 4 après la blessure de Boulan Mendes. Ça montrait qu'il y avait de la qualité, il y avait de la puissance, de la vitesse qui nous faisait défaut sur le début de saison. Donc là, ça fait 3 matchs qu'on sent que derrière on est solide.
Ouais, la puissance, la vitesse sont des mots qu'on a entendus beaucoup depuis le début de la saison avec Christophe Pélissier. C'est ce qu'il réclamait chez ses recrues et c'est ce qu'il obtient notamment derrière avec Andrew Gravillon sur ce match-là, parce que Lorient finalement n'a pas concédé énormément d'occasions. Il en a eu 2-3 chaudes, celle de fin de match dont on parlait, un corner aussi, une déviation de la tête qui est un corner ou un centre sur une déviation de la tête de Baldé, encore lui qui est pas passé loin non plus du poteau. Mais dans l'ensemble, il y a eu peu d'occasions concédées. Contre Marseille, il n'y en a pas eu non plus des tonnes. À Reims non plus. Donc c'est une équipe qui devient de plus en plus consistante défensivement, cette équipe de Lorient, avec un plan de jeu qui a fonctionné sur cet aspect défensif, qui aurait pu être davantage développé en revanche offensivement. C'est d'ailleurs ce qu'explique Jonathan Delaplace, lui qui était pour la première fois titulaire cette saison hier lors du match à Dijon.
Non, pas forcément. Nous, tous les Dijon, voilà, qui allaient nous essayer de nous contrer et utiliser beaucoup de vitesse devant. C'est un match où il y a eu beaucoup de déchets, on va dire, dans l'entrejeu. Il y a eu beaucoup de transitions rapides. Et voilà, ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Après, je pense que c'est la globalité du match, on a eu un peu plus de maîtrise. Et voilà, on n'a pas su de mettre plus en danger ça, je dirais, malgré l'espace qui nous restait.
Oui, parce qu'il y a eu de la maîtrise quand même du côté de Lorient. On le disait, elle n'a pas été tellement inquiétée cette équipe, mais on en attendait davantage quand même, un peu plus de folie. C'est peut-être ce qu'il a manqué aussi pour essayer vraiment de bousculer cette équipe de Dijon. De la folie, mais aussi plus de justesse sans doute, Pierre.
Oui, après, c'est moi l'impression que j'avais vraiment en regardant la plupart de ce match, c'était deux équipes qui doutaient quand même, enfin deux équipes de bas de tableau, qui avaient du mal à se livrer, à se lâcher tout simplement. Je me souviens qu'on a dit à la mi-temps que c'était seul un but pouvait décanter et débloquer ce match. Et Lorient a eu une opportunité folle d'ouvrir le score et puis peut-être aussi de la secousse, de rendre ce match plus vivant, de le débloquer, de le déverrouiller. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, c'est pas non plus une mauvaise opération pour Lorient, mais ça aurait pu être mieux sur le plan comptable. Et puis, pour les spectateurs, supporters, téléspectateurs, surtout téléspectateurs, ou auditeurs.
Surtout auditeurs. Bon, c'était le minimum, 0-0. Oui. Ils l'ont fait, voilà, on va s'en contenter. C'est pas si mal dans le contexte.
Oui, ça reste un point bon à l'extérieur. Reste désormais, évidemment, à le bonifier aussi à domicile face à Nantes la semaine prochaine. Nantes, qui, comme Lorient, n'est pas en grande forme, loin de là. Deux équipes qui ont 8 points, 16 et 17e.
Enfin, Nantes sort d'une victoire, 3-1 contre Brest. Oui. À domicile, bon, c'est mieux que Lorient. Mais bon, à voir, c'est un derby. Donc, dans un derby, ça reste extrêmement ouvert. En tout cas, ce sont deux clubs qui vont. Alors, peut-être moins pour Nantes quand même, se battre pour le maintien. C'est plus le cas de Lorient. Nantes, même si Nantes n'est plus l'équipe flamboyante que l'on a connue dans les années.
Moi, je 80, me méfierais de Nantes, Dominique.
80, 90 et 2000.
Nantes, mais qui n'a pas gagné une seule fois à l'extérieur.
Non, mais ils jouent bien. Enfin, dans les matchs qu'on a vus, à chaque fois, même quand ils perdent, les Nantais, contre Paris, ils ont perdu 4-0, je crois.
3-0.
Ça a été vraiment hyper sévère, avec un arbitre pas très sympathique. Voilà, ce sont des scores qui sont peu flatteurs, je trouve, pour les Nantais depuis le début de ce saison. Ils méritent beaucoup mieux que leur classement et que leurs résultats globaux actuels.
Ouais, ben on va voir ça justement du côté de Lorient la semaine prochaine, parce que c'est vrai qu'une victoire de Nantes ben leur permettrait de se relancer. Lorient aussi. D'ailleurs,
ça va être serré, je pense. Hein, ça va être serré ce match. Ouais.
Ouais, ça risque d'être serré. Hein. Ce sera d'ailleurs le retour de Christian Gourcuff au Moustoir, hein, l'ancien entraîneur des Merlus, l'illustre évidemment entraîneur du football
Est-ce
club.
Est-ce qu'il était déjà revenu avec avec Rennes
2016-2017. Oui.
D'accord.
Il était revenu et il avait perdu d'ailleurs au Moustoir avec le Stade Rennais. Il avait
Vous mettez déjà la pression pour dimanche.
Nantes, alors. Je mets la pression, mais il avait gagné les deux matchs à domicile quand même contre Lorient, parce qu'il y en avait eu deux, un en championnat, un en Coupe de la Ligue, et il avait gagné deux fois mais perdu au Moustoir. Il retournera donc dimanche prochain. La petite virgule peut-être maintenant, et puis on revient pour la suite de ce débrief entre Dijon et Lorient dans un tout petit instant.
Pourquoi tu allumes une bougie, papy ?
Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais, comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller.
Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église. Je lègue à l'Église.
Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10.
Le nouveau porte-clés Radio Bonheur est solide, mais il est tout léger car il est en mousse. Il est drôlement beau, le porte-clés Radio Bonheur, disponible pour 2 euros à la boutique Radio Bonheur ou en commandant par téléphone au 02 96 63 00 63.
Radio Bonheur. 100% chanson française.
19h40, c'est le magazine des déchaînés du football, en direct sur Radio Bonheur jusqu'à 20h30. On continue de parler de cette équipe de Lorient qui, on le rappelle, a fait match nul.
Eh oui.
0-0 chez la Lanterne Rouge Dijon ce week-end. Bon, l'écart est maintenu, c'est ce qu'on va dire, entre la Lanterne Rouge et Lorient, même si d'autres clubs ont gagné, des clubs mal classés. On va peut-être y venir tout à l'heure.
Oui, on y reviendra tout à l'heure, notamment sur le stade de Reims. Si Lorient n'a pu faire mieux à Dijon, c'est aussi à cause d'une animation offensive assez décevante. On s'attendait à peut-être un peu plus de folie devant. Alors, il manquait Pierre-Yves Hamel, qui était suspendu pour ce match. L'homme en forme aussi, l'attaquant en forme, hein, en ce moment, du côté de Lorient. Mais cette animation offensive, elle a globalement déçu les supporters qui étaient devant leur télé ou derrière leur poste de radio, les journalistes qui étaient au stade et l'entraîneur Christophe Pélissier.
Certes, on a trouvé de l'équilibre défensif, des bonnes performances défensivement, mais on n'a pas été assez juste techniquement pour se créer d'autres situations. On voyait qu'il y avait de la place, il y avait beaucoup de place entre les lignes, il y avait des vitesses à prendre, mais que ce soit dans les dernières passes, dans les centres, on a été pas assez performant pour pouvoir gagner ce match. Voilà, c'est comme ça. C'est peut-être un match où c'est qu'on a eu beaucoup de situations à l'extérieur, peut-être le plus, mais on n'a pas marqué, alors qu'on a jusqu'à présent pratiquement tout le temps marqué à l'extérieur.
Oui, Lorient qui avait tout le temps marqué à l'extérieur, sauf à Saint-Etienne, mais à Brest, à Metz, à Reims, cette équipe de Lorient avait à chaque fois trouvé le chemin des filets. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième, là où les animations ont changé, parce qu'en première mi-temps, c'était un duo à la pointe de l'attaque, Adrian Gurbic, Terem Moffi, première fois que ces deux hommes étaient associés ensemble au début d'un match, et il faut bien le dire, ça a été assez ronronnant, hein. On n'a pas trouvé ce qu'on attendait de ces deux hommes en première mi-temps. D'ailleurs, aucun n'a eu d'occasion. Il y a eu une frappe de Gurbic en première mi-temps à l'entrée de la surface contrée. Moffi, lui, n'a pas eu d'occasion. Quelques appels, mais sans que ce soit vraiment fructueux. Et Christophe Pélissier, lui, n'a pas non plus été spécialement convaincu de cette première association.
Step by step, comment dire. Il faut toujours travailler notre animation offensive. Et ce soir, on a joué avec un 4-4-2, avec deux joueurs qui débutaient pour la première fois ensemble. On a vu que c'est difficile de trouver de suite des combinaisons entre les deux, donc c'est quelque chose sur laquelle on va progresser. Donc je trouvais qu'en première mi-temps ils étaient sur les mêmes zones, sur les mêmes appels. Il y avait pas assez de profondeur dans notre jeu. Ils se marchaient un peu dessus. C'était le premier match, comme je dis, on va travailler avec eux parce que c'est que ça soit Adrian ou Terem, sont des joueurs qui ont des qualités, bien sûr. Maintenant, dans l'association, c'est pas une mi-temps qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai préféré modifier, amener de la vitesse, en mettant Wissa devant, en ajoutant aussi Armand. Et après, on l'a fait avec la rentrée d'Enzo, c'était pour avoir un peu plus de maîtrise à l'intérieur du jeu.
Ouais, de la vitesse, il y en a
J'ai
eu
une question pour vous,
davantage.
Gaëtan. Est-ce que vous pensez que ce duo Gurbic-Moffi serait complémentaire sur la durée ?
Moi, personnellement, à l'heure actuelle, non.
Je suis un peu de votre même avis, mais je demande qu'à me tromper.
Ouais, j'ai pas. Alors, ceci dit, j'avais un peu le même avis au départ en voyant Moffi Hamel être associé, parce que finalement, ce sont deux joueurs assez athlétiques qui sont censés aussi garder pas mal de ballons, de haut but, de distribuer un petit peu aussi sur les ailes et de se retrouver ensuite à la finition. Et finalement, Moffi Hamel, ça a plutôt bien fonctionné sur ce qu'on a pu voir à Reims et même contre Marseille, même si Moffi était un peu moins bien quand même contre Marseille qu'à Reims, mais c'est vrai que c'est deux profils qui se ressemblent, c'est pour ça que ça semble assez étonnant de les voir associés à la pointe de l'attaque. Alors c'est vrai qu'en deuxième mi-temps c'était deux profils là différents pour le coup, puisqu'on avait Gurbic et Johan Wissa. C'est vrai que c'était quand même plus remuant, Pierre, sur cette deuxième mi-temps. Alors vous n'avez pas vu la première hier, mais
il y a eu le pénalty, il y a eu l'occasion à la fin de Wissa, il y a eu plus de choses, j'ai l'impression.
Ouais.
Avec Wissa, Gurbic, c'était Gurbic, hein.
C'était Gurbic, ouais.
Que Moffi. Mais bon, après, vous savez, chaque match a sa vérité. Donc là, ce qu'on dit là ce soir, peut-être qu'après que Lorient va gagner 2-0 contre Nantes, et ça va être Moffi et Gurbic les buteurs. Je n'espère pas pour vous, Dominique, mais bon, voilà. C'est vrai que là, en tout cas, ils n'ont pas marqué des points, vu ce que dit Pélissier.
Non, ils n'ont pas marqué des points ensemble. Maintenant, l'animation offensive, c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile en général à mettre en œuvre, à mettre en place. Et ça va sans doute demander un petit peu de temps. On va voir comment que ça va s'organiser. Est-ce qu'ils seront à nouveau associés contre Nantes ? Est-ce que Pierre-Yves Hamel retrouvera une place de titulaire, puisqu'il sera de retour de suspension face aux Canaries ? On verra tout cela, bien sûr, dimanche prochain. En attendant, le compteur tourne. Alors petit à petit, c'est vrai, mais il tourne un point de plus, ça fait 8 unités pour le football club de Lorient. Il y a 4 équipes là qui ont 8 points, Lorient, Nantes, Nîmes et Reims, qui a gagné donc contre Strasbourg hier 2-1. Le compteur tourne et c'est finalement le mot de la fin pour Lorient sur ce match là. C'est ce qu'on doit retenir prioritairement de ce match, c'est que ça fait quand même avancer.
Les déplacements contre les concurrents directs ont fait 4 points, donc ça c'est au niveau du classement c'est bien, comme j'ai dit. Voilà, les joueurs étaient déçus aussi parce qu'on sentait qu'on pouvait prendre 3 points aujourd'hui. Maintenant on fait tourner le compteur, comme j'ai dit, on était déçus la semaine dernière parce que je pense qu'on méritait un point, ce soir 3. Attention de ne pas avoir tout le temps des regrets, mais voilà, il faut de suite se tourner maintenant sur le prochain match pour valider. Quand on fait un nul à l'extérieur, c'est jamais un mauvais résultat, hein. Au contraire, à condition de le valider par une victoire à la maison, donc c'est notre objectif maintenant.
Ouais, on l'a dit, contre le Football Club de Nantes, contre les Canaries, le week-end prochain.
Exactement, et au classement, donc Brest, parce qu'on ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais Brest est 14e avec 9 points, 1 point de plus donc que Lorient qui est 16e avec 8 points comme Reims, Nantes et Nîmes. Referme la marche Strasbourg, 19e, 6 points, et Dijon avec 3 petites unités seulement. Mmh. Dijon qui n'a pas gagné, mais parmi les résultats justement du week-end, hein, Reims qui a battu Strasbourg, ça c'était
ça, le match. C'est important, hein. Reims est sorti de la zone rouge, oui. Et Reims et Dijon qui étaient derrière depuis un petit moment, Reims qui s'est vraiment donné une bouffée d'air.
Nîmes qui plonge,
Strasbourg qui ne va pas bien non plus.
Et Nantes non plus du coup, parce qu'à 8 points, compliqué.
C'est pas non plus la grande forme, c'est vrai. Et j'allais rebondir moi sur le football club de Metz, vous qui les avez vus, Pierre, contre Lorient, oui. Metz qui a 14 points déjà, soit 6 de plus que Nîmes et 8 de plus que Strasbourg. Metz c'est un sacré début de saison malgré la perte du buteur Ibrahim Agnan sur blessure.
Oui, c'est vrai qu'on pouvait être très inquiet pour eux, hein, avec effectivement Nian qui était à l'époque, c'était juste après d'ailleurs le triplé contre Lorient, qui était à l'époque meilleur buteur de Ligue 1, qui s'est fait les croiser effectivement. Après, ils ont recruté, je crois, Léa Iseka de Toulouse, ce qui a pu aussi peut-être les rebooster un peu. Ça a été le retour de Frédéric Antonetti, vous savez, qui était au chevet de sa femme très malade et qui est malheureusement décédé et qui est resté, je crois, près de 2 ans autour de l'équipe, mais sans être l'entraîneur. C'était Vincent Ognon. Il y a eu ce changement-là d'ailleurs, je crois, après le match contre Lorient. C'était lors de la trêve internationale. Donc peut-être que ça aussi, ça a reboosté un petit peu l'équipe et qui a quand même été très solidaire hier, parce qu'ils ont joué plus d'une mi-temps à 11 contre 10 à Nîmes. En plus, ça a été très chaud la fin de match parce que Nîmes a eu beaucoup d'occasions.
À 10 contre 11.
Mais c'est une équipe qui a des bons joueurs, qui s'appuie beaucoup sur ses joueurs sénégalais parce qu'ils ont une académie en Afrique, Génération Foot, et on voit beaucoup de joueurs africains qui brillent là-bas. Donc c'est un projet assez intéressant, et oui, c'est l'une des surprises, parce que quand on regarde les 5 premiers du classement, c'est 5 européens, le 6e c'est Lyon, ils sont quasiment tous les ans aussi, et 7e c'est Metz. Donc
Bordeaux déçoit aussi, hein, Bordeaux.
Ouais. Oh, bah, ça fait presque
Bordeaux,
10 ans,
ça fait 10 ans que c'est
Bordeaux, c'est décevant. Saint-Etienne, hein, qui est sur 4 défaites consécutives.
Saint-Etienne, c'est pareil, ça fait quelques années où
c'est moins bien.
Puel qui s'est privé de tous ses cadres pour rebâtir avec une équipe jeune.
Ouais, alors il a titularisé Cazeri ce week-end, qui l'a remis un petit peu dans le sens de la marche, on va dire, mais bon, Cazeri qui n'est pas en réussite non plus sur ce début de saison.
Voilà, prochain match de Ligue 1 le week-end prochain, donc on suivra Lorient qui recevra donc Nantes, et puis nous suivrons les Brestois qui jouent
Brest-Lille dimanche à 13h et Lorient-Nantes dimanche à 15h dans la foulée. Brest-Lille, ça va être du costaud.
Moi j'ai peur si les Merlus perdent, parce que j'étais à une victoire commentée avec eux contre Strasbourg, puis une défaite à Metz. Là, Lorient-Nantes, c'est qui tout double en fait.
Exactement. On va parler de la Ligue 2 dans un instant après les réclames.
Et
le national avant. On parlera de Guingamp et de la Ligue 2 après le national. On enchaîne après les réclames avec le Stade Briochin qui n'a pas joué ce week-end comme les autres clubs de national. À tout de suite.
On en parle. Accompagner ses assurés dans la prévention des risques, c'est important pour Generali. J'appelle Anthony Panetta, agent Generali dans les Ardennes. Anthony, vous proposez un service de prévention climatique, c'est bien ça?
Oui, c'est Generali Climate Lab. Mm-hmm. À ce sujet, j'ai une anecdote. C'est un dimanche de grand beau. Un de mes clients s'étonne de recevoir un SMS d'alerte orage violent sur sa commune. Sur le moment, il n'y croit pas, mais quelques heures plus tard, il peut constater la maison de son voisin qui est emportée par une coulée de boue.
Eh bien, merci Anthony pour votre témoignage.
Plus d'infos sur generali.fr. Noroto.
Assurer votre mobilité comme votre sécurité reste pour nous la priorité. Chez Noroto, le retrait des commandes web se fait directement dans votre coffre et sans contact grâce à notre service Drive. Vous pouvez aussi profiter en ce moment de la livraison offerte à domicile ou en point relais.
Noroto.
Prise de rendez-vous et commande sur noroto.fr.
Carrefour. Chez Carrefour, nous mettons tout en œuvre pour mieux vous servir. Nos magasins et nos drives Carrefour restent ouverts et des mesures d'hygiène strictes sont mises en place. Retrouvez sur carrefour.fr tous les services disponibles selon votre région. Drive, drive piéton, livré chez vous, livraison express. Découvrez aussi les offres de nos partenaires Kitok, Potager City et Croquetland. Vous avez également la possibilité de faire livrer vos courses Carrefour par Uber Eats. C'est ça, être à vos côtés.
Carrefour. Retrouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr.
Oh là là, j'ai la banane! Noël approche, je suis comme une enfant. Je ne sais pas par où commencer.
Commencez par vous rendre chez Cdiscount, Marie-Camille. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour préparer vos cadeaux de Noël. Jouets, jeux vidéo, high-tech, décorations, petits électroménagers et bien plus encore. Et n'oubliez pas, la livraison à domicile est gratuite dès 25 euros d'achat.
Gratuite? Alors ça, c'est la cerise sur le pompon.
Cdiscount.
Voir conditions sur site.
À vous, les porte-monnaies vidées, les chéquiers fatigués, à celles et ceux qui sont en roue libre sur l'autoroute des économies, à vous qui auriez bien besoin d'un petit plein d'énergie.
Chez Total Direct Energy, nous vous aidons à moins dépenser et vous offrons jusqu'à 100 euros à utiliser en station avec la carte Club Total. Et l'électricité et le gaz sont toujours moins chers. Souscrivez à l'opération 100% Total sur totaldirectenergy.com ou au 3099.
Service et appel gratuit, offre valable jusqu'au 31 décembre 2020. Conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Alors, messieurs les cambrioleurs, les vélos des enfants sont dans le garage. Servez-vous, ils sont tout neufs. Non, j'inverse ça. Hop. Ils sont tout neufs, servez-vous. Pourriez-vous ne pas prendre ma montre? Elle est d'une grande valeur sentimentale. Merci. Ezo, imprimé.
Voilà ce que vous faites en ne protégeant pas votre domicile. Avec Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Service opéré par EPS, titulaire d'une autorisation délivrée par le CNAPS. Plus d'informations sur omiris.fr.
C'est tout vu, c'est Vulco.
Je dois changer mes pneus. Tu connais un spécialiste?
Moi, je vais chez Vulco. Ils remboursent jusqu'à 120 euros par virement bancaire pour l'achat de pneus Goodyear ou Dunlop.
Ah oui, quand même, jusqu'à 120 euros. Ça fait une bonne raison de venir chez Vulco.
Et d'y revenir, parce que chez Vulco, c'est aussi des spécialistes de l'entretien auto.
Merci pour le bon plan. En plus, j'ai un Vulco à côté de chez moi. Je file.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 21 novembre prochain dans les centres participants. Détails sur vulco.com.
Pneus et entretien auto, c'est tout vu, c'est Vulco.
Radio Bonheur, 19h53, voilà, on a parlé de la Ligue 1, on parle donc du championnat de National maintenant, et de Saint-Brieuc.
Oui, parce que vous savez, avec la crise sanitaire actuelle, seuls les clubs des trois premières divisions masculines peuvent encore jouer en France, dont le Stade Briochin, qui n'a pas joué ce week-end parce que c'était le sixième tour de Coupe de France qui a été annulé, mais le Stade Briochin qui rejouera ce week-end, on va en parler tout de suite avec Gaëtan. Mais
dans
on
un
accueille...
tout petit instant, on aura James Lemarrière.
Ah, bien sûr, alors ça sera contre le Red Star, c'est ça, hein, vendredi,
oui,
pour le Stade Briochin.
Vendredi, Saint-Brieuc, Red Star à huis clos, évidemment, et un calendrier qui devient assez difficile là, pour le Stade Briochin, parce qu'il y a eu Orléans, club professionnel, affronté mercredi. Il y a le Red Star, club professionnel, affronté vendredi prochain. Il y aura le Sporting Club de Bastia dans la foulée, qui n'est pas pro, mais qui est l'un des épouvantails de ce championnat. Et un autre club professionnel, Quevilly-Rouen Métropole, qui démarre bien sa saison aussi dans la foulée, pour au calendrier, donc au menu du Stade Briochin. Et je crois, Pierre, que nous avons James Lemarrère avec nous.
Bonsoir James.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Alors, déjà, première question, comment avez-vous vécu les annonces? Est-ce que vous aviez peur de votre côté que le championnat national s'arrête? Parce que, encore pour les pros, on l'a su rapidement, on savait que les amateurs, quasiment, ça allait s'arrêter. Mais vous, dans l'entre-deux, comment vous avez vécu ça, James?
Bah ouais, c'est vrai que nous, on était un petit peu en attente. Après, on a eu séance le jeudi matin après le match d'Orléans. Voilà, on avait déjà un peu une annonce comme quoi on continuerait. Donc voilà, nous, on est satisfait parce qu'on peut continuer. Voilà, comme j'entendais dire, on a une série de matchs qui est vraiment importante. Et c'est vrai de pouvoir enchaîner et de pouvoir jouer ces matchs-là à suivre, c'est vraiment important pour nous.
Alors justement, James, vous êtes invaincu depuis 4 matchs à domicile maintenant, avant de recevoir le Red Star vendredi. Est-ce que ce genre de série constitue une vraie force finalement pour une équipe comme ça?
Ouais, parce que voilà, on n'est pas forcément satisfait du nombre de points qu'on a depuis le début de saison. En termes de jeux produits, on est quand même voilà, satisfait, mais en termes de points, non. Et c'est vrai que là, on a débuté une série, même là, ça fait 3 matchs en comptant la Coupe de France où on n'a pas perdu. Il y a 3 clean sheets à suivre aussi, donc voilà, on a à cœur de continuer. Et c'est dès vendredi à domicile. On savait que cette année, si on voulait exister dans ce championnat, c'était à domicile qu'il fallait prendre un maximum de points. Et pour l'instant, on le fait plutôt pas mal.
Alors on le disait, vous entrez là dans le dur, clairement, du championnat, avec Orléans qui vient de se jouer la semaine dernière 0-0, le Red Star, le Sporting Club de Bastia, QRM dans la foulée. C'est un calendrier qui s'annonce assez épineux pour un promu.
Ouais, sachant que derrière on enchaîne avec Boulogne-sur-Mer qui est un gros championnat, et on finit par Le Mans, cette série-là. Donc on savait qu'on avait 6 matchs à suivre avec 6 prétendants à la montée. Voilà, donc on va pouvoir aussi se juger par rapport à ces matchs-là, parce que voilà, de ce que je disais tout à l'heure, on fait un bon début de championnat en termes de contenu. Il nous manque des points, et voilà, face à ces gros du championnat, on va pouvoir vraiment voir ce que l'on vaut, et aussi on a à cœur de prendre des points sur cette série de 6 matchs qui arrivent.
Alors vous avez joué 10 matchs de championnat. Sur quels aspects vous avez, enfin l'équipe a-t-elle appris le plus et progressé le plus? On rappelle une équipe dont beaucoup de joueurs découvrent ce championnat.
Ouais, la moitié de l'équipe découvre le championnat national. Donc c'est vrai que sur les premiers matchs, je pense qu'on a été un peu trop joueurs, et même nos adversaires nous l'ont dit sur la fin du match, qu'on allait se faire punir à être trop joueurs comme on pouvait l'être l'année dernière. Et je pense que voilà, pour les derniers matchs, on a été on a fait des vrais matchs nationaux en produisant du jeu, mais en étant équilibré, et aussi en respectant un petit peu plus nos positionnements et en étant un peu plus efficace dans ce qu'on faisait. Aussi bien défensivement qu'offensivement, où voilà, là-dessus on doit encore progresser, mais je trouve que défensivement on a vite appris à ne plus prendre de risques quand il fallait, quoi.
Est-ce que justement, James, c'est un peu joué à contre-cœur, à contre-courant pour vous de, bah, d'être moins beau?
Ouais, ça a été, je pense que ça a été dur. En fait, ça a été ça le souci au tout départ, c'est qu'on a voulu vraiment continuer dans notre philosophie qu'on avait l'année dernière. Au final, l'année dernière, on perdait ces ballons-là et on n'était pas forcément puni parce que bah, il n'y avait pas la même qualité en face. Et là, on a vu, hein, dès qu'on avait une perte de balle ou un placement un peu moins important, bah, on était puni tout de suite. Et c'est vrai que voilà, on s'est dit, on s'est réunis entre nous et puis on produit peut-être un peu moins de jeux par rapport à l'année dernière, mais je trouve qu'on le fait quand même assez bien. Et voilà. Je pense qu'on montre encore une belle image de ce qu'on peut produire par rapport à la continuité des années précédentes.
Vous parliez de l'assise défensive qui était bien meilleure. On a vu notamment lors du dernier match, pour la première fois avec Saint-Brieuc, l'association Angois-Kerbrat. Comment vous apportent-ils leur expérience du haut niveau, ces deux joueurs-là? Par quoi ça passe?
Ouais, Benjamin, lui, bah, ça fait déjà un petit moment qu'il est avec nous. Donc voilà, Benjamin, c'est un vrai soldat. Donc et puis voilà, Christophe lui apporte vraiment une sérénité, et on voit voilà que c'est quelqu'un de très posé, très serein, très efficace dans ce qu'il fait aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va nous apporter cette stabilité là et être capable à des moments, bah voilà, quand il va falloir allonger et vraiment être dans le geste juste. Et ce qui nous a peut-être fait défaut sur ce début de saison où on a pris des buts sur des petites erreurs. Donc je pense que lui, il va être capable de vraiment stabiliser ça au niveau du groupe, quoi.
La réception du Red Star vendredi, ce sera votre premier match de la saison à huis clos. Est-ce que vous appréhendez le fait de jouer sans spectateur vendredi soir?
Bah après déjà le point le côté positif, c'est qu'on joue. Déjà, ça c'est un point important. Après, c'est vrai que voilà, en tant que footballeur, on aimerait jouer devant nos spectateurs, avoir du monde à venir. Donc voilà, c'est vrai que je pense que ça va être un peu spécial. Ça va être une première pour la plupart des gars. Donc on va voir comment on va appréhender ça. Mais c'est vrai que je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce que c'est vrai que ça va être une première fois. Donc voilà, il va falloir vite s'adapter et se concentrer vraiment sur le terrain, quoi.
Mais en tout cas, c'est ce qu'on observera vendredi face au Red Star au stade Fred Aubert, match à 20h bien sûr, entre le stade Briochin et le Red Star. Merci beaucoup James Lemarère d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Ben, merci à vous, pas de soucis.
Merci, à bientôt.
Et bon match pour vendredi.
Ouais, merci beaucoup.
Merci, allez le stade.
Salut.
Radio Bonheur au carillon et sur les montres qui marchent, il est précisément 20h. Messieurs, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie, la dernière demi-heure des déchaînés du football, du magazine des déchaînés du football. On va parler de la Ligue 2, évidemment, et de Guingamp. À tout de suite. Bonsoir.
Bonsoir à tous. 52 518 cas positifs en France ces dernières 24 heures, un nouveau record dans son bilan quotidien de la Covid-19. Santé publique France a en effet fait état de 52 518 nouvelles contaminations ce lundi. Le précédent record datait du dimanche 25 octobre avec 52 010 cas. C'est un pic surprenant pour un lundi, jour de la semaine où le nombre de nouveaux cas est d'habitude plus faible à cause de la fermeture des laboratoires le week-end. Par ailleurs, selon ce bilan de Santé publique France, 416 décès de patients soignés pour infection au coronavirus ont été recensés dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. C'est un chiffre en nette hausse par rapport aux derniers jours et qui atteint un niveau qui n'avait plus été vu depuis avril dernier. Il faut continuer à aller chez le médecin, c'est ce qu'exhorte le Conseil national de l'Ordre des médecins. Dans un communiqué, il appelle l'ensemble des patients à continuer de consulter leur praticien durant le reconfinement. Il en va de la santé de chacun, à laquelle nous ne saurions renoncer, même dans cette période particulière. C'est ce qu'on peut lire dans ce communiqué. Bercy annonce une tolérance jusqu'à mercredi pour la vente de produits dits non essentiels dans les grandes surfaces. Le décret définissant les produits de première nécessité sera publié ce mardi matin. Il y a donc une tolérance jusqu'à mercredi. C'est ce qu'a expliqué Bercy dans un message à la presse au lendemain de l'annonce par le gouvernement de cette fermeture à partir de demain. À l'étranger, la Belgique entame un deuxième confinement de 6 semaines. La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, est elle aussi entrée ce lundi dans un deuxième confinement de 6 semaines, plus léger cependant que celui du printemps. Sur la place Flagey à Bruxelles, habituellement animée, seule une poignée de badauds et quelques SDF étaient installés sur les bancs publics. Le télétravail est obligatoire partout où il est possible et les magasins non essentiels sont fermés. Cependant, fleuristes et libraires ont été autorisés à ouvrir. Au moins 19 personnes ont été tuées et 22 autres blessées ce lundi dans l'attaque par des hommes armés de l'université de Kaboul, selon le porte-parole de la police de Kaboul. La plupart des victimes sont des étudiants. Plus tard dans la journée, l'assaut a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique.
Radio Bonheur, 20h04, le magazine des déchaînés du football. On parle Ligue 2 et forcément donc on parle de Guingamp ce soir, un triste 0-0.
Oui, contre Sochaux, on a suffisamment parlé de cette rencontre, en tout cas de la pauvreté de cette rencontre. On va y revenir évidemment dans cette soirée sur Radio Bonheur, dans ce petit débrief avec notamment la réaction de Mecha Bazdarevic que vous allez entendre aujourd'hui. On a eu la raison d'ailleurs pour laquelle...
Oui, on n'avait pas de son, on n'avait pas de micro pour Bazdarevic en fin de match.
On va expliquer la raison, c'est que normalement...
Pierre.
Non, même pas. C'est que normalement, il y a deux micros dans les salles de presse. Il y a le micro de la salle de presse qui est relié à une console sur laquelle on se branche. Et il y en a un autre de la télévision qui a les droits, pour l'instant, du championnat. Sauf que le technicien de la télévision, bien luné, avait pris le parti de ne brancher que son micro. Et le micro, normalement, de la salle de presse était au pied de Mecha Bazdarevic, mais à 2 mètres de lui, dans un coin, et il n'y avait pas de fil. Donc on s'est affairé avec le responsable communication de Guingamp, sauf que c'était beaucoup trop court, la conférence de presse avait déjà débuté, voilà, on s'est retrouvé sans son. Mais heureusement, on a réussi à récupérer l'interview de Mecha Bazdarevic, mais juste avant, je vous propose d'écouter le résumé, les meilleures actions de ce Guingamp Sochaux.
Oui, il n'y en a pas eu beaucoup.
On a combien de temps additionnel? On est à la fin, là. On est à la fin. C'est fini! 0-0. Au revoir, merci, bon week-end.
Fort,
voilà.
Fort,
c'est tout le résumé, Pierre?
C'est le résumé.
D'accord.
De Guingamp Sochaux. Voilà,
vous avez réussi à faire plus drôle, quand même, que ce qui a été fait sur le résumé officiel de Guingamp Sochaux. Je vous félicite, merci.
D'une tristesse, c'est vrai, accablante, hein, ce match. Et pourtant, les Guingampais ont évolué pendant une demi-heure, pendant cette fin de match, à 11 contre 10. Mais on a l'impression que même s'il avait resté seulement 9, ou voire 7 ou 8 joueurs de l'autre côté, Guingamp n'y serait pas arrivé. tant ils ont été pauvres en termes de création. Mais c'est ce qu'on dit. C'est quand je m'entends là, je m'entends encore les week-ends précédents. On se dit qu'il y a toujours pas de lien ni de création dans cette équipe. Elle sait défendre, hein, mais voilà. Mais par contre, après, pour construire, pour avoir un peu de folie, pas du tout.
Je pense qu'il y a aussi une sorte de transition, parce que cette équipe ne savait plus défendre depuis des années. Et là, on peut quand même reconnaître, messieurs, à Mecha Bazdarević, que défensivement, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus organisé. Moi, je vois surtout les prises à deux sur les côtés. C'est un bloc.
Mais ça mange complètement ce qui se passe devant.
Mais voilà, du coup, il y a une transition. Problème. Et du coup, cette équipe ne s'est plus attaquée. L'année dernière, souvenez-vous, c'était la deuxième attaque de Ligue 2. Il y a quand même eu des matchs insipides, mais c'était la deuxième meilleure attaque de Ligue 2. Là, il n'y a plus rien, messieurs.
Il n'y a plus rien. Alors, il y avait aussi sur ce match Mathias Faiton qui devait jouer, qui finalement, par rapport à la Covid, n'a pas pu être présent. C'est un peu sans doute aussi contrarié ce qu'avait prévu Mecha Bazdarević. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est quand même le match contre Auxerre. Il y a la deuxième mi-temps, il y a deux buts, c'était un peu mieux. Mais la première mi-temps, c'était pareil. Offensivement, c'était quasi le néant. Hein. Il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait pas de frappe. Il ne se passait rien ou pas grand-chose.
Bon, rien,
Le problème, c'est que c'est à Caen, ça s'est répété. Contre Sochaux, ça s'est répété. Et pourtant, les joueurs qu'il y a devant ne sont pas. Enfin, c'est quand même des joueurs d'un certain calibre pour certains.
Sur le papier. Ouais. Mais
est-ce que c'est l'animation en elle-même qui est pas bonne aussi, ce 4-2-3-1 ou 4-3-3 en fonction.
C'est l'animation, c'est l'état mental de certains. Je pense à un Gomis, je pense aussi à un Rodelin qui, on a l'impression qu'il a perdu tout amour du football.
Peut-être qu'il aille à Saint-Brieuc.
Non, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est très triste. Et écoutez, Mecha Bazdarević, on lui a demandé, coach, êtes-vous surpris de cette incapacité à être dangereux offensivement?
Ah, je suis très surpris, vous savez, moi j'ai une estime comme vous assez importante. Et je dis toujours, et publiquement, et devant mes joueurs, que c'est le groupe, il y a des très très bons joueurs, mais je suis quand même déçu de ne pas avoir cette qualité, surtout dans un match comme ça, où il fallait de justement nos joueurs sur les côtés, nos joueurs, je ne vais pas le citer non, mais tous ces joueurs offensifs, surtout, d'amener plus, folie par folie, mais plus de qualité des footballeurs.
Voilà, plus de qualité de footballeur, plus de course, plus de contrôle réussi aussi. Enfin, bon, tout du côté de Guingamp. Moi, je prends l'exemple d'un Robaille, par exemple. Ça me rappelle une phrase d'un supporter, vous savez, dans les années Ligue 2 terribles, quand Gilson Silva était arrivé, il avait fait un super premier match, le Capverdien à Guingamp. Sauf que Guingamp ne marquait pas non plus à ce moment-là. Et puis, au bout de 2-3 matchs, il était devenu aussi mauvais que les autres. Et le supporter m'avait dit, bah voilà, on avait l'espoir que ce soit lui qui réveille les autres. Au final, ce sont les autres qui ont déteint sur lui. Voilà, c'est pas définitif cette saison-là, la passe que Guingamp traverse. Mais il va falloir un déclic, il va falloir quelque chose, une action, un match. Et pour l'instant, on ne voit pas ce qui pourrait arriver à cette équipe de Guingamp.
J'ai l'impression, Pierre, que le déclic, on l'attend depuis la redescente en Ligue 2. Donc ça va faire 2 ans.
C'est plus le déclic au niveau des résultats, de la régularité. Parce que souvenez-vous, l'année dernière, il y avait pas mal de buts.
Non, mais même dans le jeu, on a l'impression que les joueurs, depuis qu'ils sont, même avant qu'ils soient descendus en Ligue 2, on a l'impression qu'ils sont ternes, qu'ils ont plus la fougue qu'un joueur de foot peut avoir sur le terrain. On a l'impression qu'ils viennent sur le terrain parce qu'ils sont dans l'obligation de venir bosser et terminer. Ils font le minimum, alors pas défensivement parce que c'est beaucoup plus agressif, il y a un travail qui est fait, mais offensivement on a l'impression que les mecs,
il y a pas d'audace,
voilà, c'est ça, c'est fade.
Ils font les efforts, on voit comment cette équipe défend, même les joueurs de couloir, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les prises à deux, ils font les efforts, mais devant il y a un attentisme incroyable.
On a l'impression que toute la créativité est partie en 3 ans, mais enfin qu'on prenne n'importe quel joueur, on a l'impression que on aurait pu même mettre, je sais pas, vous mettez même Neymar, il va arriver à Guingamp.
Vous voyez même un joueur comme Marcus Thuram, la dernière année de Ligue 1, qui sur les premiers mois porte l'équipe quasiment tout seul, met la misère à des clubs comme Paris, Saint-Etienne. Et vous voyez ce qu'il a fait récemment, alors bien sûr il a progressé, mais On a l'impression que Thuram, il a complètement déjoué, vu que personne n'arrivait à attaquer autour de lui. C'est une spirale négative qui entoure le club. Et voilà, ça fait partie de ces cycles ultra négatifs que peuvent connaître des clubs. Et on y était plus forcément habitué. Vous avez entendu ce qu'a dit Fabrice Pinel tout à l'heure, le spécialiste du Stade Rennais, qui disait eux ils sont en pleine forme en ce moment, ils surfent sur une belle vague, mais voilà, il y a beaucoup d'exigence de la part des supporters qui voudraient en faire plus. Bah oui, mais quand les Rennais vont retomber dans la médiocrité qu'ils ont connue il y a quelques années, ça va leur faire tout drôle, comme ça nous fait tout drôle en ce moment. On a l'impression que dès qu'il y a un but de Guingamp, c'est un événement national, tellement c'est dur d'en marquer. Et ça, on l'avait connu aussi quelques temps du côté de Guingamp. On revient sur ce en avant Sochaux, parce qu'il y a eu un événement, un léger frisson dans ce match, ça a été le carton rouge pour Chris Bedia sur une action. Messieurs, je ne sais pas si vous l'avez revu, mais alors moi j'étais très étonné du carton rouge.
Pour moi, il y a pas rouge là-dessus.
Qui peut s'expliquer pour quelques raisons. Messieurs, je vous donne la parole. Êtes-vous surpris? Apparemment, oui, Gaëtan.
Alors non, moi je suis pas surpris. Sébastien, un peu plus sans doute.
Un peu plus, parce que pour moi, il n'y a pas.
Pour moi, il y a quand même le crampon qui traîne bien sur le tibia.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est un défenseur central en D4.
Non, mais pour moi, c'est difficile de mettre un rouge là-dessus. Il n'y a pas l'intention de faire mal, il n'y a pas tout ça. Alors, un jaune, d'accord, mais le rouge, je le trouve extrêmement sévère.
Bah, moi, quand j'ai vu le résumé en voyant l'action au départ.
Après, je prends le foot anglais aussi. Donc,
En voyant l'action au départ filmée du haut de la tribune, j'étais surpris. Je dis attention, c'est là-dessus le rouge. Je trouvais ça bizarre. Mais quand j'ai revu le ralenti, j'ai quand même mieux compris. Je trouve que l'attaquant laisse quand même un peu traîner ses crampons sur le tibia. Alors, pas forcément volontairement, mais il n'empêche que c'est un geste assez dangereux qui aurait pu être plus lourd de conséquences. Alors, c'est vrai que comme en face, Jérémy Melo, finalement, n'est pas blessé, le rouge peut paraître peut-être sévère. Alors, il n'empêche que le geste est là, quoi.
Alors juste, on va écouter la réaction à ce sujet d'Omar Daff, l'entraîneur de Sochaux, et après...
Ancien défenseur central de D4, lui aussi, me semble-t-il.
Oui, latéral droit en Coupe du Monde, aussi, à d'autres heures perdues. Écoutez-le.
Moi, je trouve que c'est sévère, parce que c'est une action de jeu où Chris Bedia est en position de frapper et de marquer aussi. Derrière, il y a un défenseur qui fait son job, qui fait ce qu'il faut. Après, il n'y a pas de geste maladroit, tout méchant, c'est un fin de jeu. Donc je trouve que le carton rouge est très très sévère pour nous encore ce soir, parce que ça va nous pénaliser pour les rencontres à venir.
Je pense qu'on peut comprendre la...
Moi je le comprends tout à fait.
Parce que il tacle pas Bedia, il fait une frappe. Pour moi c'est un geste maladroit de Bedia. Mais là où je trouve que la décision de M. Paliès peut se comprendre, c'est que... Il met un jaune d'abord à Bedia, mais ensuite il voit la trace des crampons. Elle n'était pas minime quand même, cette trace de
bruit. Ouais, ça saignait bien.
Y a une grosse entaille.
Je pense que c'est ça qui a provoqué le carton rouge. C'est ça qui a donné rouge, hein, c'est clair.
Je pense que ça a été surprenant et peut-être même un peu inquiétant. Alors, c'est pas très grave, hein, Bazdarevic.
Non, c'est plus une éraflure qu'autre chose.
Je pense que Melo devrait être là contre Clermont. Il ne sera pas là par contre au match prochain parce qu'il sera suspendu.
On vient de revoir l'action là en studio avec Sébastien. Sébastien est choqué. Moi, je suis pas plus choqué que ça.
Moi, je trouve ça sévère.
Clairement, il n'y a rien du tout.
Moi, je trouve ça sévère aussi.
Il y a une frappe. Il n'y a pas rien. Mais rouge, c'est peut-être sévère.
Mais il y a une frappe.
C'est parce qu'il y a eu du sang.
Quand il y a du sang, c'est carton rouge.
Mais
vous savez, les pieds hauts. Les pieds hauts, des fois au niveau du visage, c'est souvent sanctionné aussi, alors que
il a considéré jeu dangereux sans doute.
Voilà, jeu dangereux, alors que des fois un pied haut il peut en avoir un sur un magnifique retourné acrobatique.
Mais regardez,
il peut y avoir les deux sons de cloche.
Vous pouvez frapper dans le ballon, vous allez péter la cheville du défenseur, il n'y aura jamais faute. Et pourtant, vous allez frapper et le ballon va heurter la cheville.
J'ai jamais vu ça quand même.
Comment ?
J'ai jamais vu ça quand même.
Ah bah, c'est arrivé plus d'une fois qu'un joueur se fasse...
Parce que vous faites du badminton, vous faites pas de football, monsieur.
Non, mais peut-être pas.
Surtout quand ils oublient leur protège tibia, mais...
Non, mais un pied contre pied, l'attaquant peut frapper dans le ballon si le défenseur met son pied au niveau du ballon.
Ah oui, j'avais pas compris.
Le défenseur peut avoir une entorse ou le pied cassé. Et pourtant, vous sifflez pas rouge là-dessus.
Je me souviens d'un là, carton rouge pour Sambouya Tabaré lors d'un Rennes-Guingamp. C'était en 2015, je crois, où il met le pied sur le haut du ballon et son pied glisse en fait sur le ballon. Il termine sur la cheville du Rennais.
C'est pareil, vous pouvez pas s'y faire rouge là-dessus. C'est pas possible.
Bon, mais c'est comme ça.
C'est jamais arbitre.
Ça se constate. Ça se conteste souvent. Les cartons rouges, c'est comme les pénalties.
J'ai la coupe de cheveux de l'arbitre. Je saurais me reconvertir.
Bon, carton rouge en tout cas pour DAF. Mais les. Alors c'est vrai que ça va pénaliser un petit peu ces joueurs de Sochaux pour le prochain match, mais en tout cas ça n'a pas avantagé Guingamp plus que ça dans la dernière demi-heure, malgré la supériorité numérique.
Vous voyez que ce match a été passionnant, on a passé 5 minutes à débattre du seul fait de jeu cette rencontre, en plus pour un Sochalien et non pas un Guingampais. Écoutez la réaction à ce sujet de Bazdarevic qui a noté que son équipe avait vraiment vraiment buté sur cette équipe et ce bloc Sochalien même à 10.
Vous savez, c'était pas facile d'avoir le mouvement parce qu'il y avait un bloc, il y avait des rideaux, des deux lignes des 4. Après, il fallait justement un petit peu plus de mouvement dans l'intervalle, un peu plus de mouvement sur le côté, ce qu'on a réussi première mi-temps. Comme on a réussi première mi-temps, on était 11 contre 11, on a passé par la côté, déséquilibré cette bloc, d'être un peu plus patient, d'ouvrir. Vous savez, toutes les termes, toutes les techniques qu'on met en place, justement, quand ça nous arrive des situations comme ça. Mais encore une fois, c'est ce moment-là, c'est aussi les joueurs individuellement qui doivent faire ce nombre et la situation intéressante.
Eh oui, il n'y a pas eu assez de mouvement, de création du côté de Guingamp. Question du coup à Mecha Bazdarevic, est-il frustré ? Réponse.
Vous savez, frustré, agacé, oui ou non, vous savez, on est frustré parce que... Mais moi j'ai toujours confiance et encore une fois peut-être une estime qui est plus importante que la vôtre et ce que j'aurais dit, mais je pense qu'il est temps que le joueur il prend des responsabilités et conscience de voilà, si on veut, je pense qu'on veut tous jouer un rôle plus intéressant dans cette championnat.
Ouais, parce qu'on est là, on est loin des premières places du championnat de Ligue 2. Quand on voit les matchs de Guingamp, on a plus une équipe pour jouer le maintien cette année.
Ouais, après pour revenir sur la déclaration de Bazdarevic, je pense pas qu'on puisse être frustré quand on fait une prestation pareille. Alors encore une fois, moi j'ai pas vu le match en entier, je l'ai vu que suivi partiellement parce que
j'ai eu de la chance.
Le Stade Rennais à ce moment-là où j'avais vu des buts d'ailleurs pour le coup, mais quand il y a aussi peu dans un match, je pense qu'on peut pas être frustré. On est frustré quand on a beaucoup d'occasions.
Il est pas frustré du résultat, je pense. Là, on est... je pense pas qu'il parle de ça. Il est frustré de son équipe, que son équipe n'ait pas mieux joué. Voilà.
Que vous soyez si inoffensif avec les joueurs que vous avez devant.
C'est quand même pas possible, oui.
Ouais, c'est ça. C'est ça la frustration.
Il y a quand même beaucoup de joueurs à vocation offensive. Il y en a quand même 5, je crois, au coup d'envoi.
Et en plus, il a fait. Alors, il y avait Robaï à gauche, il y avait Livolan à droite, Gomis devant, Mchangama en 10. La paire Roux-Romao qui sécurise défensif. La défense, mais voilà, là aussi.
Mais où il y en a un peut-être... des deux qui, de temps en temps, peut accompagner aussi. Ouais. Donc, il y a quand même 4 joueurs clairement
plus
offensifs.
Les entrées, et même à la fin, il a fait entrer Pelé et Rodelin, il avait fait sortir Roux, donc on avait une paire Mchangama, Romao à la fin, oui, et puis 4 joueurs au-dessus à vocation offensive, ça aurait dû suffire en plus avec les latéraux sur les côtés. C'est avec un Rebocho, j'ai l'impression de retrouver le Rebocho de ses débuts à Guingamp, il était très timide, il n'y avait pas de. Où il ne se lâchait pas. Voilà, et d'ailleurs, il y a une phrase de Robaï. Alors, malheureusement, on n'a pas eu sa réaction l'autre jour en son, mais il a dit la question, c'était vous avez joué en Ligue 2 à Lens et Valenciennes, à quel niveau jugez-vous ce groupe? Il répond par rapport à ce que j'ai connu, c'est entre les deux pour ma part, c'est mieux qu'à Valenciennes, mais moins bien que Lens. L'année dernière, à Lens, toute l'équipe avait la même volonté, monter en Ligue 1. Là, je ne ressens pas le même objectif, même si ça vient pour certains qui prennent conscience. Ça serait bien en novembre de prendre conscience que vous êtes quand même dans un club.
Même les joueurs le disent, quoi.
Ils le disent, donc ça se voyait déjà sur le terrain qu'il n'y a pas ce supplément.
Voilà, mais que c'est un palier supplémentaire, le fait que les joueurs l'admettent que voilà, il n'y a pas la motivation pour monter.
Qu'ils l'admettent aussi, parce que souvent, je trouve qu'il y a souvent des déclarations de joueurs qui sont, alors Guingamp ou ailleurs, langue de bois, ou alors qui sont pas forcément lucides. Beaucoup de joueurs qui disent il y a un super groupe, super état d'esprit, ceci, cela, mais au final, ça donne rien. Là, il le dit, tout le monde ne tire pas dans le même sens ou pas assez.
Pas sûr que ça réveille les autres joueurs pour autant.
Ouais, pas sûr, que ça les réveille, évidemment. Non. En tout cas, Guingamp, bon, et Pierre est à combien là? C'est 11 points?
Oui, 11 points. 11 points. Ne me demandez pas la place, je ne veux plus regarder le classement. On est plus près du bas que du haut. Mais oui, c'est 11 points pour les Guingampais. Alors le trou 14e, n'est pas fait encore.
14e
devant.
Moins 1 la différence de but.
J'ai pas entendu. Non, de toute façon, c'est ce qu'on disait l'année de la descente. Faut pas regarder le classement, faut regarder ce qui se passe d'abord sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain, c'est pas du tout suffisant pour l'équipe. Bon,
le classement reflète bien ce club. Hein, oui. Je pense que Guingamp est à sa place, 14e.
Je l'avais dit, moi, 14-15e cette année.
Guingamp est à sa place dans le classement avec 11 points.
Vous me donnerez le numéro du loto, Sébastien.
Bah écoutez, on en parle à la 38e et je vous donnerai le numéro.
Bon, prochain match, un petit mot pour finir sur cette Ligue 2 et sur Guingamp. Prochain match, ce sera une autre paire de manches, je pense, avec Clermont. Alors même si Guingamp jouera à domicile, je crois, la prochaine fois, Guingamp-Clermont, c'est une équipe forte.
C'est à l'extérieur, là.
C'est Clermont-Guingamp, c'est ça?
C'est à Clermont.
C'est à Clermont. Ah oui, alors ça sera vraiment difficile, je pense, pour Guingamp.
Clermont... Après, ça défend bien, donc c'est un bon test pour la défense, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on va prendre des buts, donc il va falloir en marquer aussi, du côté de cette équipe de Guingamp.
À voir, ça sera... Clermont qui a gagné 3 à Valenciennes.
Clermont, je pense que c'est une équipe qui peut viser le podium, Clermont, cette saison. Ils auraient pu monter la saison dernière s'il n'y avait pas eu le Covid, si la saison ne s'était pas arrêtée prématurément. Ça faisait partie des clubs en super forme. Ouais, mais là, l'année dernière, ils étaient vraiment sur la...
Ils étaient dans le coup.
Ce qui manque à Clermont, c'est clairement des supporters. Mais là, étant donné qu'il n'y a plus de supporters dans les clubs, ça va peut-être...
Ça équilibre.
ça va peut-être jouer en leur faveur, cette situation.
Et justement, on parle du huis clos juste avant, une dernière pause avant de parler des filles de Frédéric Biancalani qui sera notre invité. Juste, on vous racontera la soirée de Roudourou samedi à huis clos, demain dans la rubrique. Voilà, on vous racontera.
8h40.
Exactement, le ressenti un petit peu des présents, des rares présents au stade.
Pour nos auditeurs qui sont sur Guingamp et sur Lannion, sur nos émetteurs.
Pour les autres,
FM.
Ça sera en rediffusion, en tout cas en podcast sur le site radiobonheur.com.
Chaque mois, 10 000 couples se forment sur Mythique. J'adore les fringues, alors vider la moitié de mon placard pour lui faire de la place, ça voulait dire beaucoup pour moi.
Ouais, pour moi aussi. Même si c'était plutôt un quart d'étagère, mais c'est l'intention qui compte, hein, ma chérie.
Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr.
Mythique. L'épidémie de Covid-19 met en avant l'importance des risques liés au travail. Entreprise, pour protéger vos salariés, l'assurance maladie risque professionnel vous accompagne dans la prévention de la Covid-19 et des risques courants liés à vos métiers. Mal de dos, TMS, chute ou risques chimiques. Pour les TPE-PME, des subventions sont proposées, sous certaines conditions, pour vous aider à financer vos investissements dans des matériels de protection. Retrouvez les conseils et solutions par secteur d'activité de l'assurance maladie risque professionnel sur amélie.fr/entreprise.
Les autres vont attendre pour imaginer leur nouvelle cuisine. Mais vous n'êtes pas les autres, et Cuisine Plus non plus. Découvrez la conception à distance personnalisée par Cuisine Plus. Prenez rendez-vous sur cuisineplus.fr pour partager avec nous vos envies de cuisine. Cuisine Plus, sortez des standards.
Deliveroo, vos restos et épiceries préférées livrés chez vous. Et jusqu'à la fin de l'année, toutes vos livraisons sont gratuites pour 1€ par mois au lieu de 10,99€. Alors, on se fait un Deliveroo ? Téléchargez dès maintenant l'application Deliveroo, voire conditions sur Deliveroo.fr. 1€ et toutes mes livraisons sont gratos ? Je m'abonne direct. T'as pas 1€ ?
La paire. Pour Thérèse, ce qui compte avec un placard coulissant, c'est de ne pas faire de bruit. Et pour Marine, c'est de pouvoir tout ranger rapidement. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 30 novembre chez La Paire, profitez de moins 25% sur les portes de placard coulissantes sur mesure. La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr.
Oh là là, j'ai la banane! Noël approche, je suis comme une enfant. Je ne sais pas par où commencer.
Commencez par vous rendre chez Cdiscount, Marie-Camille. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour préparer vos cadeaux de Noël. Jouets, jeux vidéo, high-tech, décorations, petits électroménagers et bien plus encore. Et n'oubliez pas, la livraison à domicile est gratuite dès 25€ d'achat.
Gratuite? Alors ça, c'est la cerise sur le pompon.
Cdiscount. Voir conditions sur site.
Radio Bonheur, 20h et 25 minutes, les 5 dernières minutes du magazine des déchaînés du football. Et on parle des féminines de Guingamp.
Oui, et on va avoir avec nous Frédéric Biancalani, l'entraîneur des féminines de
Guingamp. C'est pas sûr, hein, parce que ça ne...
Ah, ça ne répond pas. On va essayer de lui renvoyer un petit message alors à l'entraîneur des féminines. En tout cas, les filles se sont imposées samedi face au Havre, le promu Havrais. 2-1 à l'Académie. Une victoire obtenue grâce au but de Faustine Robert à la deuxième minute, puis de Sarah Cambeau dans les 10 dernières rencontres de la partie. C'est le Havre qui avait égalisé donc entre temps à la quatrième. Ça avait été un début de match assez fou, hein, 2 buts en 4 minutes. Une Faustine Robert d'ailleurs qui est un petit peu la joueuse en forme de ce début de saison, celle qui survole un petit peu là, le début de saison. 5 buts déjà pour elle en 7 journées pour Faustine Robert. Guingamp qui a donc décroché sa deuxième victoire de la saison et qui est sorti pour la première fois de la zone rouge, parce que Guingamp avait mal démarré, hein, 3 défaites consécutives, même 4 d'ailleurs, 4 défaites consécutives, une victoire, une autre défaite, puis une deuxième victoire donc samedi, grâce à laquelle Guingamp est sorti de la zone rouge avec 6 unités, comme Soyaux, le premier relégable, et comme Le Havre également, Le Havre qui a 2 points de moins, alors que Frédéric Biancalani me dit qu'il est disponible désormais. Le voici, l'entraîneur qu'on va avoir dans un court instant. Les filles de Guingamp donc qui relèvent la tête avec le deuxième but aussi de la recrue Sarah Cambeau, qui avait eu sur les premiers matchs un petit peu de mal à se mettre en route, mais qui ça y est lancée. Elle a marqué contre son ancien club de Soyaux il y a 3 semaines, et elle a marqué là aussi contre Le Havre. Le Havre d'ailleurs qui devient lanterne rouge, hein, à l'issue de ce match, dans un bas de tableau extrêmement resserré avec 3 équipes à 6 points et 3 points seulement pour séparer le 8e du dernier 12e dans ce championnat de D1 féminine.
Ouais, on ne réussit pas à avoir un Frédéric Biancalani.
Pourtant, vérifie le numéro en même temps et il est bon pourtant, donc c'est assez étonnant qu'on n'arrive pas à le joindre.
C'est la messagerie directe en fait, c'est ça la messagerie, donc c'est bien son bon numéro, mais c'est la messagerie directe, on a essayé 12 fois je crois.
On l'aura une autre fois.
Ouais, la semaine prochaine, comme ça on aura un petit peu de temps. Et puis en plus, la D1 féminine, ça reste, ça joue. Donc oui, on pourra en parler régulièrement.
C'est ce que j'allais dire, c'est un championnat qui, comme la Ligue 1, la Ligue 2 et le National, continue. Il n'y a que 5 championnats qui continuent. Ligue 1, Ligue 2, National, D1 féminine et D1 futsal aussi, qui continue en France.
Ouais, mettre au futsal, Sébastien.
Ben, c'est ça.
Bah, écoutez, si
moi je suis un joueur de parking, donc ça me va.
ça vous correspondrait parfaitement. Voilà, deuxième victoire pour les Guingampès qui ne joueront pas le week-end prochain, puisqu'il y a une petite trêve qui s'annonce, et elles joueront donc la semaine suivante contre le Paris FC, si ma mémoire est bonne.
Prochain rendez-vous avec les déchaînés du football, donc la rubrique demain matin à 8h40, rediffusion à 17h40, et puis on se retrouve le week-end prochain pour suivre les Guingampais. On l'a dit, déplacement périlleux à Clermont-Ferrand pour les Guingampais en Ligue 2.
J'espère pouvoir y arriver aussi, moi.
Lorient jouera contre les Nantais, contre les Canaries, ça se passera à Lorient, au Moustoir. Et puis les Brestois, eux, auront un match difficile, hein, à domicile contre des Lillois en forme dans ce championnat de Ligue 1. Des matchs à vivre le week-end prochain en direct sur Radio Bonheur. Vous vouliez rajouter quelque chose, Gaëtan?
Non, si ce n'est que Lille est invaincu dans ce championnat, donc ça,
contrairement à Paris, qui a perdu déjà 2 fois.
Voilà, c'est la seule équipe invaincue, je crois, hein, Lille en Ligue 1.
Oui, et même en Europe, hein, je regarde, l'AC Milan est encore invaincu. Je crois qu'il n'y a plus que 3 clubs. Il me semble que c'est Sassuolo aussi, l'autre club qui est invaincu. Donc voilà, plus que 3 clubs dans les 5 grands championnats européens qui n'ont pas perdu. Il y a aussi Leverkusen en Allemagne, l'Atlético de Madrid. 1, 2, 3. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a moins de 6 qui sont invaincus.
Même Sochaux en Ligue 2 a perdu la semaine dernière alors qu'ils étaient invaincus, les Sochaliens.
Guingamp n'a pas perdu encore en championnat.
Pas tout à fait.
Non, pas tout à fait. Vous me rassurez, Gaëtan, parce que là, sinon.
Merci, messieurs. Bonne soirée. Et puis,
je dirais pas que ça a pas marché. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché.
Exactement.
Bonne soirée et à demain 8h40 pour la rubrique des déchaînés du football. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3, à Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9.
Radio Bonheur, 100% chanson française.
C'est déjà la fin de la belle saison. Demain les sucriers s'en vont. De l'île de Bas, du Trégor, du Léon, les sucriers s'en iront. Tu as le cœur gros et tes sanglots sont longs. Demain les sucriers s'en vont. Marie, tu sais bien que passé la moisson, les sucriers s'en iront. L'on sera l'automne, mais pour le nouvel an, ils reviendront fièrement. L'on seront les jours, mais pour le nouvel an, ils reviendront plein d'argent. Pour les grandes plaines du pays d'Orléans, demain les sucriers s'en vont. Prépare sa malle, repasse ses vêtements, les sucriers s'en iront. Devant le café, l'autobus les attend, on fait l'appel des présents. Les anciens rassurent, les jeunes débutants, un petit dernier et bon vent. Mais pour le nouvel an, ils reviendront fièrement. Longs seront les jours, mais pour le nouvel an, ils reviendront plein d'argent. Aux mères courage, ils vous laissent les enfants. Demain les sucriers s'en vont. La